Sud Radio, il est 6h. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure libre, une heure de décryptage de l'actualité des faits de société avec la rédaction de Factuel.media, une heure avec le très vigilant Jean-Marie Bordry. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour,
ah oui, vigilant, vous êtes là et vous êtes là pour redresser nos torts quand nous nous laissons aller à quelques dérapages.
N'hésitez pas à redresser les miens.
Avec nous également Alexandre Martinez, enquêteur à Factuel.media.
Bonjour
Alexandre.
Bonjour Jean-Marie.
Bonjour. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Olivier Morin, éleveur de brebis en Lozère, président de l'IGP Elovel, une de ces IGP indications géographiques protégées les plus exigeantes de France. Vous êtes également père de famille, maire d'une petite commune, Prévenchères, en Lozère, et qui, dans son livre, a pris la parole au nom des milliers de sans-voix des territoires ruraux. Son livre s'appelle « Le festin des loups, le cri d'alarme d'un maire rural » et c'est paru aux éditions Première Partie. Bonjour Olivier Morin.
Bonjour Stéphane Simon, bonjour à tous.
Bonjour.
Alors, dans la deuxième partie de cette émission, on va accueillir Bertrand Sicard, président de Férus, une association qui se bat, elle, pour la réintroduction des espèces sauvages dans nos montagnes. Je pense que ça va être l'occasion d'un échange passionnant, peut-être musclé entre vous tout à l'heure. Mais tout de suite, je voudrais que l'on parle de vous, Olivier Morin, et de votre parcours. Vous vous battez contre ce que vous appelez l'ensauvagement de nos campagnes. Je dois dire que c'est une notion très intéressante, car on connaissait évidemment l'ensauvagement de nos banlieues. Mais vous allez nous dire ce que c'est que l'ensauvagement de nos campagnes. Ça n'a pas grand-chose à voir, mais ça détruit, comme la violence dans nos cités, une certaine forme de rapport apaisé de notre civilisation avec la nature. Tout d'abord, revenons sur votre parcours. Vous êtes fils et arrière-petit-fils d'éleveur. Je dis ça parce que je crois que c'est important de rappeler qu'on ne devient pas éleveur comme ça. On est souvent amené à perpétuer une tradition familiale.
Oui, c'est exact. Donc moi, je me suis installé en 2000, sur les terres de mon grand-père,
ouais.
Dans un petit hameau qui s'appelle Lafare, en Lozère, sur l'est du département de la Lozère, limitrophe avec l'Ardèche. Je me suis installé donc sur ces terres familiales, mais je suis quand même parti de rien, c'est-à-dire que j'ai bâti cette exploitation en montant mon troupeau petit à petit, en construisant un bâtiment agricole, bergerie-grange de mes mains avec l'aide de mon père et de mon frère, et j'ai également commencé à investir dans du matériel agricole pour tout simplement pouvoir travailler
aujourd'hui
la terre.
Votre troupeau, il est de combien de têtes?
Alors moi j'ai démarré justement en 2000 avec 50 brebis.
Ouais.
Et puis petit à petit, j'ai monté un troupeau de 350 brebis mères jusqu'en 2009.
Ouais.
Au moment du départ en retraite de mon père, qui lui était installé déjà, depuis évidemment un demi-siècle sur un autre site.
Ouais.
Et donc, on a fusionné les exploitations. Et aujourd'hui, on a une magnifique ferme avec 1200 brebis, 300 agnelles pour le renouvellement. Les agnelles, c'est les petites brebis, quoi, tout simplement.
Oui, celles qu'on mange à Pâques, c'est
ça. Ouais, c'est ça. Et puis les béliers, les reproducteurs, avec 20 béliers reproducteurs. Et on est trois sur la ferme.
Oui, c'est un beau troupeau.
Beau troupeau, oui.
Alors, vous avez eu une enfance heureuse entre l'école où vous étiez plutôt pas mauvais et les travaux des champs avec vos parents. C'est un modèle qui vous convenait et dont vous dites que malheureusement, vous ne pourrez peut-être plus garantir la continuité à vos enfants.
Oui, moi j'ai eu une scolarité relativement réussie. J'ai mon bac, bon voilà. J'étais parti pour faire des études d'histoire géo à la fac.
C'est un point commun avec votre serviteur.
Oui, c'est ça. Et puis. Et puis voilà, après l'obtention malgré tout de la première année, sur un coup de tête comme peut-être les jeunes peuvent en avoir de temps en temps, j'ai tout planté et j'ai fait mon service militaire.
Ouais.
Avant de revenir en Lozère, d'abord par un petit boulot, un temps ouvrier dans une scierie, et puis ensuite en 2000, voilà, j'ai fait ce choix de perpétuer l'aventure familiale et de m'installer en tant qu'agriculteur.
C'était quoi? C'était l'appel de la terre? Vous vous sentiez pas chez vous là où vous faisiez vos études et vous aviez besoin de revenir chez vous?
Probablement, peut-être aussi l'envie de découvrir autre chose un peu d'inattendu, parce que quand vous avez 18 ans, que vous vous engagez avec les fusiliers commandos de l'air pour partir en Afrique, c'est pas, voilà, c'est peut-être pas commun, mais voilà, peut-être l'envie de partir, et je le regrette pas aujourd'hui d'ailleurs, parce que je pars pas de chez moi tous les jours.
Et oui, c'est d'ailleurs, vous nous faites une belle preuve d'amitié de venir ce jour sur Sud Radio ce samedi. Alors vous et votre père, vous êtes à l'origine d'une filière de qualité, c'est important de le rappeler, qui est l'agneau de Lozère, en plus particulièrement l'agneau d'Elovel, qui est un agneau très prisé des grandes tables. C'est une race qui a été longtemps appelée blanche de Lozère et qui a des qualités de viande exceptionnelles. La viande n'est pas grasse, pas très rouge, elle est plutôt rosée et son gras a la réputation d'avoir un goût de noisette quand il est grillé. C'est une viande succulente.
Alors oui. Élobel. Élobel, ça veut dire élevage ovin et environnement en Lozère, créé en 1990 déjà. Élevage ovin et environnement en Lozère. Depuis très longtemps, on a compris, mon père avant moi et d'autres évidemment, ont compris qu'il fallait impérativement lier l'environnement dans lequel on vit, nous, aujourd'hui qu'on appelle cette fameuse biodiversité, la lier avec notre production, notre façon de travailler, parce que ben c'est ce qu'attend le consommateur. Et donc cet agneau, c'est au fil des années, a acquis une notoriété indiscutable. Joël Robuchon le citait comme d'ailleurs le seigneur des agneaux, c'est pas rien. Ça a été, couronné par l'obtention en 2008 de l'indication géographique protégée qui vient boucler la boucle et en faire en effet un des produits très haut de gamme
elle
de la viande française.
Et sur quelle surface cette IGP, parce qu'il y a beaucoup d'appellations, d'indications géographiques protégées qui sont extrêmement restrictives à plus ou moins 5 kilomètres.
Alors nous, on a la plus petite IGP de France en termes de superficie, surface et de volume.
800 hectares, c'est ça?
Non, un peu plus. Non, c'est le département de la Lozère. Le département de la Lozère avec quelques communes limitrophes, mais c'est la plus petite en termes de taille de France et c'est la plus restrictive aussi en termes de cahier des charges. Une seule race de brebis, comme vous l'avez dit, la Blanche de Lozère, qui s'appelle Blanche du Massif Central aujourd'hui, avec des caractéristiques très particulières sur l'autonomie fourragère de nos exploitations agricoles. Ouais. Voilà, 80% de l'alimentation de nos brebis mères doit provenir de la ferme,
du terroir,
du foin, du pâturage, de la céréale qu'on produit chez nous. Et enfin, une caractéristique forte qui fait partie du cahier des charges, c'est l'espèce, donc l'agneau doit être né, élevé et abattu sur le territoire de l'IGP.
D'accord.
C'est unique.
C'est unique. Alors, j'allais dire que vous avez vécu de votre métier, certes, ce n'était pas une sinécure, c'était du boulot, mais plutôt joyeusement, jusque dans les années 2010. Et là, je dis patatras, car le loup a été réintroduit dans nos montagnes, en Lozère en particulier. Je dis patatras parce que, à titre personnel, Olivier, vous comptez déjà plus de 150 brebis tuées directement par des attaques de loups.
Oui, c'est exact. Alors, c'est vrai que le chemin de 2000 à 2010 a pas été facile pour une installation de zéro. Un jeune qui se lance aujourd'hui, c'est pas facile. Et d'ailleurs, ce message, c'est aussi un message d'encouragement à tous les jeunes paysans qui ont des difficultés, et de ceux-ci, s'il y en a, c'est de leur dire surtout ne lâchez pas, le travail finit par payer. Mais malgré tout, malgré le travail, malgré la difficulté, quand on vit sans prédation, quand on n'a pas d'attaque de loup, même si c'est difficile, on n'a pas un horizon qui est bouché. Et depuis 2010, avec le retour du loup sur le département de la Lozère, avec les premières attaques officielles en 2012, alors là, en effet, c'est un monde qui bascule. Et depuis 2012, je me bats.
On est là pour en parler.
On est là pour en parler.
Absolument. Le loup avait complètement disparu en France depuis les années 30. Il a été réintroduit donc dans les années 90, un petit peu avant la Lozère. Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Alexandre Martinez?
Effectivement, le loup n'était plus présent en France, comme vous le disiez, à l'entre-deux-guerres, si ce n'est dans les légendes urbaines, telles que les loups de Courlande ou encore la bête du Gévaudan, pour faire un petit aparté avec l'Occitanie. Et en tout cas, comme vous l'avez dit, il a été réintroduit progressivement. Alors c'est l'espèce qui est le loup gris, que l'on trouve également dans les pays frontaliers, en Italie et en Espagne. On a un nombre d'individus qui est croissant chaque année. Ouais. En France, il s'agit de l'Office français de la biodiversité qui est en charge de l'estimation. Pour vous prendre un petit exemple, on était en 2021-2022 à 920 espèces recensées. Eh bien, en 2022-2023, on est à 1100. Donc, une constante augmentation. Et comme vous l'avez très bien dit, en 2010, on l'a vu apparaître maintenant dans la zone du Massif Central, notamment en Lozère. Et aujourd'hui, on aurait près de 7% du territoire français qui serait concerné, et particulièrement le Mercantour, par cette réintroduction des loups.
Mais peut-être juste une petite précision sémantique, parce qu'elle est importante. C'est vrai que le loup a pas factuellement été réintroduit, au contraire de l'ours, où on a été chercher des ours de Slovénie pour les introduire dans les Pyrénées à nouveau. Là, c'est une migration des loups qui sont revenus progressivement année après année depuis l'Italie, et qu'on a protégé, ce qui fait qu'ils sont multipliés.
Aujourd'hui, le drame, c'est que les meutes de loups se constituent. Olivier Morin, c'était déjà difficile de garder un troupeau d'une centaine de brebis avec un chien ou un chien protecteur comme le patou. Mais là, face à une attaque de plusieurs loups, ça devient très compliqué pour vous.
ça devient très compliqué. Alors juste, je rebondis quand même.
Ouais, je vous en prie.
Parce que sur ce que vous avez dit, certes, on peut pas dire officiellement que le loup a été réintroduit. Je lance quand même aux yeux des lecteurs et des auditeurs aujourd'hui quelques perspectives et à leur réflexion sur ces différents lâchers qu'il y a eu avant le retour officiel de 1993. Bon. En tout cas, réintroduction ou pas, toujours est-il que le fait d'avoir un régime strictement protégé,
ça a permis son développement et son apparition
sur le territoire français en tout cas. Oui. Alors c'est difficile, évidemment c'est difficile de s'en protéger, d'autant plus qu'on a des systèmes de reproduction sur nos territoires qui sont très divers, et notamment sur le Massif central. Par exemple, certes, on a des troupeaux d'estive où on part tous ensemble, tous les éleveurs de la commune partent sur le Mont Lozère l'été.
Et là, il y a plusieurs milliers de bêtes.
Là, il y a 2500 bêtes, avec trois bergers salariés. Mais on a aussi un système de fonctionnement durant les mois restants où on a 4-5 lots de brebis différents sur la ferme, voilà, parce que un lot est en lutte, un lot est en reproduction, etc. Ce qui fait que vous ne pouvez pas, de toute façon, mettre trois bergers par lot de brebis, 10-15 patous par lot de brebis. Donc les moyens de protection qui sont décrits dans le plan loup, ils sont quand même très difficiles à mettre en place assez inefficaces malgré tout.
Dans un instant, on va se demander pourquoi le retour du loup sauvage n'est pas une bonne nouvelle. Pourquoi le loup est-il devenu un enjeu politique aussi? Et pourquoi est-il si difficile de concilier une agriculture respectueuse de l'environnement avec le retour des espèces sauvages? Ce sont des questions abordées dans votre livre, Olivier Morin. On vous retrouve tout de suite sur Sud Radio. A tout de suite.
Cerise de Groupama nous dit pourquoi ça change tout d'être bien accompagné.
Rien de grave, Victor.
Non, Cerise, c'est juste un accrochage. Mais je dois faire réparer ma voiture rapidement et en ce moment, j'ai beaucoup de dépenses.
Rassurez-vous, si vous la faites réparer dans un de nos garages partenaires, vous n'aurez pas de frais à avancer. Nous les prendrons directement en charge.
Ah, merci Cerise, je vais appeler mon conseiller.
Et il vous trouvera le garage partenaire le plus proche de chez vous. Groupama, la vraie vie s'assure ici.
Plus d'infos sur groupama.fr. Pour les conditions et limites des garanties, se reporter au contrat.
Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h.
De retour dans l'heure libre, votre rendez-vous du samedi matin pour décrypter l'actualité sur Sud Radio avec Factuel.media. Je suis toujours en compagnie de Jean-Marie Bordry et Alexandre Martinez, toujours également. Notre invité du jour est Olivier Morin. Il est éleveur de brebis en Lozère, maire d'une petite commune, Prévenchère, et auteur d'un livre remarquable qui s'appelle Le Festin des loups, le cri d'alarme d'un maire rural aux éditions Première Partie. On parle du loup aujourd'hui. La réintroduction n'est pas sans poser des problèmes aux éleveurs et aux habitants de nos montagnes. Concrètement, j'aurais voulu vous demander, Olivier Morin, comment ça se passe une attaque de loup? Qu'est-ce qu'on ressent au milieu des montagnes quand on sent la bête s'approcher? Est-ce qu'on sent d'abord la bête s'approcher? Parce que comprenez que nous autres urbains, on ne sait pas trop bien de quoi vous parlez là.
C'est toute la difficulté et d'où le livre, hein, c'est d'essayer de faire passer ces messages aux citadins, et je vous remercie encore de m'inviter aujourd'hui. Oui et non. Oui et non. Bien sûr que de par le comportement des chiens de protection la nuit, de par le comportement des brebis dans les parcs de nuit, on sent le mouvement du loup autour, les sonnailles qui s'excitent, les chiens qui aboient, etc. Et non, parce que les dernières attaques qu'on a eues sur notre troupeau du Mont Lozère ont eu lieu par temps de pluie, par temps de brouillard. Nous étions 5 éleveurs, armes à l'épaule, parce qu'on a des tirs de défense, armes à l'épaule, 5 pour 2500 brebis. On n'a pas vu l'attaque se dérouler.
Vous avez quand même le droit d'utiliser. Pardon, mais vous avez le droit d'utiliser vos armes si le loup se fait trop proche et trop menaçant.
C'est un cadre très strict.
Parce que je croyais que c'était protégé jusqu'à l'aveuglement presque, c'est-à-dire impossible de toucher un loup.
C'est un système dérogatoire en effet qui a été mis en place par l'État depuis quand même quelques années. Il y a à peu près 3000 tirs de défense autorisés en France aujourd'hui. C'est beaucoup et malheureusement ça ne règle pas le problème parce que comme je vous le dis, dans certains secteurs et dans certains cadres très stricts, les tirs de défense sont autorisés, mais nous, sur notre secteur d'estive, nous n'avons jamais pu voir le loup attaquer. Et donc, pas pouvoir lui tirer dessus, en fait. C'est ça la difficulté.
J'aimerais que vous décriviez cette scène, parce qu'elle est très frappante. Vous dites, vous étiez dans le brouillard, dans la pluie, à 5 armées pour surveiller 2500 brebis, et malgré ça, l'attaque a eu lieu sans que vous vous en rendiez compte. Quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que le loup avait frappé? Combien de brebis avaient disparu? Comment ça s'est passé?
Eh bien, quand le brouillard s'est levé, quand la pluie est partie, et qu'on a pu faire le tour du troupeau, c'est un
et
animal.
Vous en avez perdu combien?
Cette fois-là, on avait perdu 7 brebis tuées et puis une ou deux qui étaient blessées bon, et qui de toute façon finissent par agoniser. Et là aussi, d'ailleurs, excusez-moi, mais le bien-être animal, je pense que si toutes les personnes qui aujourd'hui
peut-être en sincérité, défendre ces animaux-là. Venez voir les résultats des attaques de loups, je pense qu'il y aurait des surprises.
Bah oui, c'est ce que vous expliquez, pardon, vous racontez, c'est fort, c'est profond, c'est si amer. Si j'avais eu l'énergie ce jour-là de prendre ma brebis sur mes épaules, je l'aurais descendue jusqu'à la préfecture de Mende pour l'exposer à la vue des journalistes, des citoyens, des élus. Comment notre société, dans la grandeur du bien-être animal, peut-elle accepter ce massacre, vous écrivez ?
C'est une des raisons qui m'a poussé à écrire ce bouquin, c'est cette injustice que l'on ressent. Alors bien sûr qu'il ne faut pas faire de mal à un chat, etc. Bon, on entend tous les jours à la radio. Mais alors, quid de nous ? Quid de nos animaux domestiques ? En effet, je me rappelle complètement de la première attaque, je ne l'oublierai jamais. Et tous les éleveurs qui ont basculé dans la prédation, ça reste pour eux un moment dramatique de leur vie. Et ça, c'est très pesant aussi psychologiquement.
Mais j'ai une question subsidiaire sur l'attaque que vous décriviez à l'instant. Vous disiez que vous en aviez perdu 7, plus de blessés. Sur les 7, combien avaient été dévorés ? Puisque de mémoire, le prédateur normalement attaque une bête pour la dévorer.
C'est ça, et c'est un autre sujet très intéressant, c'est que malheureusement, il tue, mais il ne consomme pas forcément. Là, en l'occurrence, il n'avait rien consommé du tout, puisque nous, on est arrivé après la levée du brouillard sur le lieu de massacre, il s'est enfui évidemment, il n'a rien consommé. Donc, bien sûr que le prédateur, il faut qu'il se nourrisse, mais de là à tuer 7 brebis et à massacrer 3 autres, et pour pas manger 1 kilo de viande, c'est quand même très 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 compliqué et très dur à digérer pour nous.
Revenons sur ces massacres que font les loups quand ils attaquent un troupeau comme ça. Alexandre Martinez, je voulais vous demander, qu'est-ce que prévoit l'État pour dédommager les éleveurs là quand ils sont attaqués par les loups, les fameuses 7 brebis là touchées par exemple ?
Effectivement, lorsqu'on se retrouve face à un tel massacre, il y a une aide compensatoire de la part de l'État qui est sous forme de subvention. Alors en ce qui concerne notamment l'installation de clôtures de protection, fil électrique, on a également des aides pour l'achat de chiens de troupeau, qui sont quand même, rappelons-le, essentiels pour pouvoir protéger. Et pense à votre cas, avec près de 350 bêtes, c'est quand même considérable. Et puis on peut avoir aussi des aides pour le gardiennage. Et parfois, on le voit aussi sur certains sites de préfecture, on a des aides qui cumulent. On le voit par exemple pour la préfecture du Lot, 80% pour les chiens ou alors encore 80% prise en compte.
Vous disiez, Olivier Morin, hors antenne, que vous touchiez 200 euros par brebis tuée.
C'est variable, ça dépend.
Enfin, 200 euros, c'est pas beaucoup d'argent.
Brebis pleine, brebis vide, agnelle, brebis meuleuse, il y a tout un critère de cahier des charges. Mais ça, en moyenne, on va dire 200 euros.
Brebis pleine, ça veut dire qu'il attend un agneau.
Elle a un ou deux agneaux, mais quoi qu'il arrive, et que mon message soit pas mal interprété, bien entendu qu'il faut indemniser les éleveurs, c'est tout à fait normal. Bien entendu qu'il faut continuer de les soutenir pour mettre en place ces moyens de protection qui sont, même s'ils sont inefficaces, qui sont aujourd'hui à minima nécessaires. Mais c'est pas de l'argent qu'on veut. Jamais on ne remboursera le mal qu'on nous fait, le mal qu'on fait à nos animaux, le mal qu'on fait à nos familles, et les conséquences économiques, on ne les remboursera jamais. Une brebis, même 200 euros. Mais une brebis, moi j'ai parfois passé 5 ans à la rendre brebis, conserver sa génétique, faire en sorte qu'elle soit bonne laitière pour nourrir ses agneaux, pour produire de l'IGP tout à l'heure. Oui. Bon, le temps passé à mettre en place toutes ces mesures de protection, les nuits blanches, elles sont payées comment ? Elles sont rémunérées comment ? Donc non, l'argent malheureusement n'est pas une solution et n'est pas suffisant.
Alors, l'État, quand même, consacre 38 millions d'euros à la protection des troupeaux. 90% de ce budget va dans des installations dont vous parliez, Alexandre Martinez, des protections barbelées, des choses comme ça, et 10% à l'indemnisation des victimes. Est-ce que c'est suffisant, tout ça ? Parce que ça pose quand même une question, c'est beaucoup d'argent pour finalement protéger des troupeaux, et est-ce qu'à terme on va pas se retrouver avec un prix pour les brebis qui va devenir beaucoup moins compétitif avec les autres agneaux ou brebis qui viennent du monde entier, de Nouvelle-Zélande et autres, à force de dépenser de l'argent comme ça?
C'est sans fin. Et on depuis, vous l'aviez rappelé, depuis 1993 et le retour du loup en France officiellement, les moyens de protection ont explosé en termes de montant, les indemnisations ont explosé. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, il y a 55 départements français colonisés par le loup. Ces fameuses zones de présence permanente que nous, on assimile à des zones de prédation permanente.
Je rappelle 55.
Mais donc la France, c'est fini. De la Normandie jusqu'aux Charentes, en passant évidemment par les bassins historiques.
Vous dites qu'en Normandie aussi, il y a des loups.
On en a vu en Bretagne.
Ça a été reconnu. Et de toute façon, tant que l'espèce ne sera pas régulée, la colonisation va se poursuivre. Sur les moyens de protection, je l'explique clairement, aujourd'hui 92% des attaques de loups sur les troupeaux français le sont malgré les moyens de protection. Donc à un moment donné, il faut quand même remettre tout ça sur la table. on n'y arrivera pas en restant dans ce logiciel-là, très coûteux pour nos concitoyens, parce qu'au final, qui c'est qui paye ? C'est vous, par vos impôts, et inefficace, et qui poursuit la détresse des éleveurs. 40% de diminution du cheptel ovin français depuis 15 ans. Au même moment où on rentre, par des accords de libre-échange, encore davantage l'été dernier, des agneaux de Nouvelle-Zélande.
Ben voilà.
Donc, c'est quand même fou, quoi, ce système.
Alors, il y a quelque chose qui vous énerve en particulier, Olivier Morin, on le dit dans ce livre de colère, c'est la manière dont se moquent les écologistes de la sagesse ancestrale, vous dites, de cette sagesse populaire qui avait pris ses distances, j'allais dire sanitaires, avec le loup.
Mais alors, c'est la difficulté, et on va le voir tout à l'heure dans le débat avec Bertrand Sicard, c'est que... Ben aujourd'hui, on fait croire aux gens qui ont perdu en effet le lien au territoire, notamment le lien à l'agriculture. 80% des Français vivent en ville. Et s'il y a un siècle, tous les Français avaient un lien direct à la paysannerie par leurs parents, grands-parents. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, ils se détachent de la réalité. Et donc, c'est tellement plus facile de leur dire que le loup n'a jamais été une menace pour l'homme, etc. J'ai essayé de leur rappeler en effet une trentaine de pages. Toute l'historique, toutes les mesures de protection que prenaient les humains, mais pour leur propre vie vis-à-vis de cet animal. Que ce soit des fosses à loups autour des maisons, que ce soit avec des lances à loups, que ce soit avec des feux qui étaient allumés dans les villages pour se protéger. Donc, attention, ne méprisons pas cet animal, respectons-le pour ce qu'il est, et nous les éleveurs, je peux vous assurer qu'on sait ce qu'est un loup, et on le respecte en ce sens-là.
Les néo-écolos, vous dites, considèrent que la nature seule suffit à son équilibre, mais l'état de nature, c'est en vérité pas très reluisant, la nature n'est pas naturellement bonne.
Non, elle n'est pas bonne, et quand on la livre à elle-même, elle finit toujours par finalement s'autodétruire. Regardez, c'est dans les grands parcs nationaux sur la planète qu'ont eu lieu les plus grands incendies ravageurs ces 10 dernières années. Pourquoi ? Parce que l'homme entretient cette nature par les activités agricoles, par alors je reviens évidemment beaucoup sur le rôle de l'agriculture en termes de pâturage, de d'écobuage, d'entretien de l'environnement qui limite les incendies, etc., etc. Donc non, l'homme a sa place clairement au cœur de cette nature.
Ouais. Alors on va se demander dans un instant si la réintroduction du loup n'a pas été qu'une chimère finalement, et nous serons avec le président de Férus, Monsieur Bertrand Sicard. Férus, c'est l'association qui s'est battue justement pour la réintroduction du loup et des espèces sauvages dans la montagne. A tout de suite sur Sud Radio.
Vous faites bouger les lignes, vous êtes entrepreneur ou souhaitez le devenir, vous êtes sensible à la richesse de nos territoires. Retrouvez chaque mois chez votre marchand de presse le magazine optimiste Eco-Réseau Business. Au menu, des conseils pratiques, des solutions, des portraits d'entrepreneurs inspirants, des entreprises qui font l'actualité et bousculent les codes. Pour 5 euros seulement, osez Eco-Réseau Business, le magazine de tous les entrepreneurs. Eco-Réseau Business, pour entreprendre, innover et positiver.
Sud Radio Perpignan.
103.2.
Sud Radio.
J'aime tes vins de Bourgogne qui me racontent des histoires. Tes petites piquettes qui cognent et sentent bon le terroir. Je m'enroule dans ta manche, je rêve de tes tropiques. J'aime tellement tes dimanches, ta campagne et tes criques. Chez toi on se sent libre, égal et fraternel. Et même quand tu m'enivres, tu m'accroches à tes prunelles. Tout le 14 juillet, tu brilles de mille feux. On est tous aux aguets, les petits, les grands, les vieux. Chaque fois je veux partir, voyager, voir du pays. Je reviens pour ton sourire, ma France, tu m'as tout appris. On peut faire le tour du monde, visiter Vienne ou Florence, aimer les brunes ou les blondes. On ne fait jamais le tour de France. On ne fait jamais le tour de France. J'aime tes petites places, Ricard et puis pétanque. M'asseoir à tes terrasses ou sirop à la menthe. T'as le goût de la fête, tes rêves parlent fort. T'as tellement de facettes et tellement de décors. Chez toi on s'ennuie
jamais à ton petit caractère. Quand on te marche sur les pieds, tu lèves le poing en l'air. Unis, on est plus fort, même quand on se fait la guerre. On s'engage et alors on reste solidaire. Chaque fois que je veux partir, voyager fort du pays, je reviens pour ton sourire. La France, tu m'as tout appris. Sans chez soi, un petit bout de terre. C'est bien joli la Bretagne, et c'est bien bon le Finistère. Et quand l'Alsace te gagne, tu reviens pas en arrière. Chaque fois que je veux partir, voyager fort du pays, je reviens pour ton sourire. Ma France, tu m'as tout appris. Jamais le tour de France, la pa la pa, la pa la pa. On ne fait jamais le tour de France, la pa la pa, la pa la pa.
Sud Radio, l'heure libre. 10h-11h.
De retour dans l'heure libre, votre rendez-vous du samedi matin sur Sud Radio pour regarder l'actualité à la loupe. Je suis toujours en compagnie de Jean-Marie Bordry et toujours d'Alexandre présent. Martinez. Notre invité du jour est Olivier Morin, éleveur de brebis en Lozère, maire d'une petite commune, Prévenchère, et auteur du livre Les Festins des loups, le cri d'alarme d'un maire rural aux éditions Première Partie. Et nous a rejoint, et on est ravis de l'accueillir, Bertrand Sicard, président de l'association Férus. Alors Férus, c'est la première association nationale de protection et de conservation de l'ours, du loup et du lynx en France. Bonjour Bertrand Sicard.
Bonjour et merci de m'avoir invité.
Alors, cher Bertrand Sicard, vous allez avoir la lourde charge de défendre les espèces sauvages. Vous savez que nos anciens décrivaient le loup comme une créature du diable. Vous serez donc l'avocat du diable, si j'ose dire. Olivier Morin.
Quel honneur.
Olivier Morin nous expliquait que le retour du loup sauvage n'a pas été une bonne nouvelle pour le métier d'éleveur. Évidemment, vous regardez les choses d'une autre manière. Bertrand.
Oui, tout à fait. Alors nous, chez Férus, on travaille avec les éleveurs, donc on n'est pas des hors-sol. On comprend leurs difficultés hein, dès les premiers temps. Hein. Le loup est revenu naturellement hein, d'Italie en 1992. D'ailleurs, les Italiens nous avaient prévenus déjà depuis longue date, sachant que le loup s'était réparti progressivement dans toute la boîte italienne. Hein, ils sont.
Je crois que vous n'êtes pas d'accord, vous, sur la réintroduction du loup. Vous dites que c'est. On ne sait pas si c'est artificiel ou naturel. Mais bon, on n'y arrivera pas.
Enfin bon, les preuves scientifiques sont là, et puis les naturalistes. Mais moi, je suis prêt à discuter de tout. Voilà. Donc, il est revenu naturellement, et c'est vrai qu'il a posé d'emblée des problèmes au niveau de l'élevage ovin, surtout. Voilà, sachant qu'il est rentré par la mauvaise porte, il est rentré par la porte des Alpes, où il y a un gros élevage, j'en veux dire que moi j'appellerais extensif et intensif, avec des troupeaux qui sont très très importants, qui vont jusqu'à 2000 bêtes, 2500 bêtes parfois, voilà, et où les bergers avaient pratiquement disparu. Voilà, donc ça a posé un gros problème. Voilà, depuis, il y a eu beaucoup de chemin qui a été fait. L'État s'est beaucoup investi, hein. Faut pas croire que l'État s'est pas investi. Aujourd'hui, le retour du loup, c'est 35 millions d'euros, hein.
Oui, on en parlait.
C'est pas négligeable. Voilà, il a poussé les éleveurs à remettre des bergers sur les troupeaux, à s'équiper en chiens de protection. Donc ça a été, nous on reconnaît, une petite révolution hein, pour les éleveurs. C'est un prix à payer pour le retour de la grande faune. en France, en Europe.
Pourquoi c'est si important
c'est
la grande
faune ?
C'est pas
qu'en France, hein, c'est dans toute l'Europe occidentale, oui. La grande faune revient, en particulier les loups, mais le lynx aussi.
Alors, je voulais vous demander, en quoi c'est si important que ça, la grande faune ? Parce que c'est un animal, le loup, qui est en bout de chaîne alimentaire, et évidemment, il n'y a personne pour tuer le loup, à part l'homme éventuellement.
C'est vrai, ou les loups entre eux, parfois.
Ou les loups entre eux.
Oui, tout à fait, il est au sommet de la chaîne alimentaire. C'est ce qu'on appelle un grand prédateur, avec l'ours et le lynx. C'est une espèce chapeau. Et pour nous, il est garant, je dirais, d'un système écologique sain. Voilà, aujourd'hui...
C'est-à-dire
que le loup va veiller à la régulation des ongulés en particulier. Mm-hmm.
Les cervidés par exemple, les chamois.
Les cervidés, alors les chamois ça c'est une chose. Les chevreuils, alors les cerfs un peu moins parce qu'on peut pas dire qu'on ait beaucoup de cerfs en France.
C'est
mais surtout
les
sangliers aussi. Hein. Vous savez qu'on a un gros problème avec la gestion des sangliers en France. Ça coûte quand même 50 millions d'euros. Mm. Par an, hein, comparé aux 35 millions d'euros.
Oui.
Voilà, donc ça, je dirais, c'est des arguments rationnels, mais il y a aussi des arguments irrationnels. C'est qu'aujourd'hui, on vit dans une société ultra-moderne, où le virtuel envahit tout, où les gens, 80% de nos contemporains en France vivent dans les villes. Donc les gens veulent de la nature et de la grande nature. Et c'est vrai que le loup est le symbole de cette grande nature. Voilà. Mmh. C'est un animal, mis à part les désagréments qu'il pose à l'élevage ovin, nous on le reconnaît, c'est un animal extraordinaire, c'est un animal intelligent. Vous avez des éthologues qui disent qu'en fait l'animal le plus proche, hein, c'est plus proche de l'homme, c'est pas le singe, mais c'est le loup. Parce que le loup a toujours fasciné l'homme, il vit en meute, il vit en famille. Une meute, c'est une famille. Voilà. Donc, alors, mais c'est vrai que l'ultra-modernité dans laquelle on vit a du mal à faire la place au retour de cette grande nature que les Français sollicitent. Hein, c'est ça qu'il faut savoir. Alors, voilà. Donc, je suis prudent dans tous mes propos parce que je veux pas déclencher de polémique.
Non, mais Olivier Morin.
C'est vrai que vous savez une chose importante depuis le Covid.
Ouais.
La fréquentation des parcs nationaux en France multipliée par 3.
D'accord. Alors Olivier Morin, vous parlez d'ensauvagement de nos campagnes et vous êtes hostile à ce que l'on réintroduise ces animaux parce qu'on ne sait pas les gérer finalement. C'est ce que vous expliquez dans ce livre.
C'est la problématique. Il n'y a pas de gestion de l'eau aujourd'hui. Alors il aura fallu attendre maintenant près de 30 ans et l'explosion du nombre de loups en France. On est officiellement aux alentours de 1200 loups. Ça c'est le chiffre officiel OFB. On sait très bien qu'il y en a probablement le double. Bon, enfin, restons sur le chiffre officiel, ce qui est déjà beaucoup, puisqu'on a très largement dépassé les 500 qui était le seuil de viabilité qui avait été établi il y a 7-8 ans, d'ailleurs, par les services de l'État et des scientifiques. Donc aujourd'hui, on pourrait dire que ce seuil est largement atteint, voire doublé, donc la régulation s'impose. Bon, on a entendu évidemment...
Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut les abattre ?
Ah ben, de toute façon, il faut réguler. Vous l'avez dit, le loup n'a pas de prédateur naturel.
Au-dessus de lui, ça c'est sûr.
Bon, donc si on le laisse comme ça, avec une carte blanche, il va en effet procéder au festin des loups. Mais il procède au festin des loups sur les troupeaux domestiques en priorité. Je rappelle quand même qu'il y a eu l'année dernière, chiffre officiel encore une fois, près de 13 000 animaux domestiques massacrés en France. Brebis, bovins, équins, chiens de protection. 14 000, je ne parle pas des attaques sur la faune sauvage. Je renvoie dans le bouquin à l'étude faite par la Fédération départementale des chasseurs de la Drôme qui a tiré l'alarme, la sonnette d'alarme déjà il y a 4 ans. Ils ont aujourd'hui chez eux plus de gibier. J'ai encore reçu, avant de rentrer tout à l'heure, une photo d'un sanglier dévoré chez moi. Donc il impacte les troupeaux domestiques, il impacte la faune sauvage. Allons-nous attendre qu'il impacte l'homme, comme il l'a fait au cours des siècles ?
Bertrand Sicard, comment régler la prolifération des loups ?
Alors, je pense qu'il n'y a pas de prolifération du loup.
D'accord.
Le loup, c'est un animal qui s'autorégule. On le sait très bien aujourd'hui. Hein, le loup, il occupe une meute occupe à peu près 200 km² et il tolère pas d'autres concurrents. Hein. Et d'ailleurs, les loups, je ne sais pas si vous avez vu le dernier film de Jean-Michel Bertrand, Vivre avec les loups, hein, qui est un film emblématique qui remet les pendules à l'heure et qui pose des bonnes questions. Et il nous explique que les loups, parfois, ont des combats violents entre eux parce qu'ils ne supportent pas de dépasser une certaine densité. Voilà. Parce que comme tout animal sauvage, le loup, il est déterminé par les proies dont il dispose. Mmh. Voilà. Donc, et d'ailleurs, je tiens à dire que si le loup est revenu comme ça en France, c'est parce qu'il y a beaucoup d'espèces sauvages en France, en particulier de cervidés, ou sinon, il ne serait pas revenu. Mmh. Hein, il a, lorsqu'un
c'est parce
loup,
qu'il a mangé qu'il
lorsqu'un
revient.
Loup apparaît en Bretagne, alors qu'on l'a absolument pas repéré venant d'Italie, parce qu'aujourd'hui, avec le marquage génétique, on ne se trompe pas sur les individus. Un loup qui vient d'Italie se retrouve en Bretagne alors qu'on ne l'a pas du tout repéré en cours de chemin, ben c'est parce qu'il s'est nourri principalement de proies sauvages. Voilà. Mmh. Donc, je dirais que son gibier favori, c'est les espèces sauvages. Alors, cela étant dit, effectivement, il y a 12 000, 13 000 bêtes prédatées chaque année. Mais bon, il faut connaître le chiffre de l'élevage ovin en France. Hein, c'est 6 millions de têtes. Mmh. Voilà. Oui. Il faut savoir que chaque année, il y a 5% de perte d'ovins pour des tas de raisons. Parce que le mouton, enfin, monsieur me contredira pas, c'est une espèce domestique fragile.
Je suis pas sûr qu'il vous contredise pas.
Mais il faut qu'on puisse discuter. Voilà. En tout cas, le mouton, c'est un animal fragile, qui meurt d'accidents, de maladies. Il y a 5%, enfin, c'est les chiffres de la Fédération ovine, hein. 5% de bêtes qui meurent chaque année. Sans le loup, là. Mmh. Hein, il faut savoir que les dégâts du loup en France, c'est 0,1%, et c'est 1% dans les Alpes. Donc il faut remettre les choses en perspective.
D'accord. Donc vous pensez qu'on exagère un peu sur la mauvaise réputation du loup, si je vous comprends bien?
Alors, oui, je pense qu'on exagère un peu. Il se trouve que le loup vit beaucoup mieux dans certains autres pays d'Europe où il y a beaucoup moins d'élevage ovin, il faut dire ce qui est, en particulier l'Allemagne. Hein. Mmh. L'Allemagne, ils ont tiré un loup depuis qu'il est revenu, ils ont autant de loups que nous. Ils nous ont très vite rattrapés, il est arrivé 15 ans après. En fait, c'est des loups qui viennent de l'Est. Donc, et il a mauvaise réputation parce que il est confronté à des troupeaux qui ne sont pas protégés. Voilà. Il faut savoir que le loup. Mais je vais vous laisser parler, monsieur. Ouais, en Italie, là, en Espagne, où le loup n'a jamais disparu, les moyens de protection n'ont jamais vraiment disparu. Bon, après, c'est le cas aussi dans tous les pays de l'Est. Je connais très bien les pays de l'Est parce que moi, je passe beaucoup de temps en Roumanie. Voilà. Alors après, je reconnais que c'est pas tout à fait le même élevage. En Italie, ils font du fromage. Donc les troupeaux sont moins importants,
ils sortent plus, ils sont
tout le temps avec leurs moutons. Voilà, donc oui, je pense que sa réputation est surfaite. En tout cas, ce que je dois dire, c'est que on n'a pas de témoignage d'attaque de loup sur l'homme en Europe.
D'accord. Voilà. Alors, dans un instant, vous allez pouvoir, ce que je sens que vous êtes en train de bouillir, Olivier Morin. Et on va se demander si la réintroduction des loups et la volonté d'une minorité militante, on va dire, et de pouvoirs publics qui n'ont pas demandé l'avis des premiers concernés, c'est-à-dire les éleveurs et les habitants des montagnes. On continue ce débat et vous allez pouvoir apporter votre contradiction, Olivier Morin. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio Libourne.
106.
Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h.
De retour dans l'heure libre sur Sud Radio, votre rendez-vous pour regarder l'actualité à la loupe. Je suis toujours en compagnie de Jean-Marie Bordry, toujours en compagnie d'Alexandre Martinez de Factuel.media. Nos invités du jour sont Olivier Morin, éleveur de brebis en Lozère, maire d'une petite commune Prévenchère et auteur d'un livre de colère, Le Festin des loups, le cri d'alarme d'un maire rural aux éditions Première Partie, que nous avons lu et approuvé, et Bertrand Sicard, président de l'association Férus. Je rappelle que Férus, c'est la première association nationale de protection et de conservation de l'ours, du loup et du lynx en France. Alors, Olivier Morin, on vous a senti très très agacé en cette fin de troisième partie. Vous aviez envie de répondre à Bertrand Sicard qui minore un peu la mauvaise réputation du loup.
Mais évidemment, alors ma réponse c'est d'abord le livre, parce que si j'ai souhaité écrire un livre, c'est justement pour ne pas rentrer dans des débats comme ça qui sont très très courts et sur lesquels on peut pas malgré notre bonne volonté et parler de tous les sujets. Donc j'ai choisi de l'écriture et c'est une façon apaisée de parler de cette problématique. La grosse différence qu'il y a entre nous, certainement, il y en a plusieurs, mais il y en a une, c'est que nous sommes des hommes.
Oui, ben je crois que Monsieur Sicard aussi.
Nous défendons l'humain. Moi, ce qui m'a le plus blessé, touché au cours de ces 10 dernières années, et c'est l'objet du livre, c'est la souffrance animale, certes, d'animaux massacrés, qui d'ailleurs ferait scandale si toutes les images d'animaux massacrés par les loups passaient à TF1 ou BFM, etc. Mais c'est surtout la souffrance humaine.
Je vous sais dans votre livre assez en colère contre les médias. Vous dites qu'on parle trop peu des massacres des bêtes et qu'on ne voit jamais ça à la télévision.
C'est-à-dire que oui, quand même.
Ah, oui, vous êtes invité.
Accordez-moi qu'on ne voit pas de manière fréquente des images et des conséquences des animaux encore en vie. Moi, l'image de la brebis qui est évoquée dans le bouquin, de ma première attaque, je l'ai encore, et les éleveurs l'ont encore, que ce soit une brebis, un cheval. J'ai encore aussi une image d'un cheval en Lozère attaqué par les loups, avec le cul dévoré, excusez-moi, vivant. Bon, donc cette souffrance animale, elle est réelle, mais c'est surtout une souffrance humaine. J'étais encore au téléphone il y a 48 heures avec un éleveur des Bouches-du-Rhône. Ouais. Il gardait ses brebis, parce qu'en effet, nous gardons nos brebis, bon, ou nous les surveillons. Et ce gars, qui a 58 ans, était désespéré, éleveur depuis toujours. Il était en train de garder son troupeau entre deux meutes. Une meute de 9 et une meute de 6. Parce que les gars, sur le terrain, on connaît, on sait où se trouvent les loups. Et il y en a partout. Et notamment en Bouches-du-Rhône. Et il était désespéré. Il était aussi apeuré parce que il pouvait mesurer aujourd'hui l'impact de ces animaux qui se sont multipliés et qui représentent une dangerosité quand même certaine, y compris sur l'homme. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'interaction entre le loup et l'homme au cours de notre histoire, et on ne peut pas dire, hélas, qu'il n'y en aura pas. On s'en rapproche, donc moi, l'objet du bouquin...
Donc vous pensez que c'est une affaire de quelques mois, voire de quelques années, avant que les attaques contre les hommes se produisent.
Mais de toute façon...
Vous êtes pessimiste.
Mais on est pessimiste parce qu'on est
tragique.
Ouais. Peut-être tragique, mais en tout cas, on alerte, à la fois en tant qu'éleveur, mais aussi en tant que maire rural, du coup, puisqu'on nous demande, à nous, les élus ruraux, d'être garants de la sécurité des biens et des personne. J'étais avant-hier en Ariège, je rebondis sur l'ours, alors, puisque monsieur défend et le loup et l'ours.
Et le lynx.
Eh bien, allons-y. L'ours en Ariège, c'est 70 individus minimum reconnus par les services de l'État. C'est une attaque l'année dernière, dans le 31, en Italie, sur Andrea Papi, 26 ans, tué par l'ours. On va encore nous raconter aujourd'hui que ces animaux ne sont pas dangereux. Donc, voyons, il faut revenir à la raison, il faut considérer ces animaux pour ce qu'ils sont. Les respecter, c'est les considérer pour ce qu'ils sont. Et nous les respectons beaucoup et nous les craignons beaucoup, parce que nous savons que ce sont des prédateurs. Voilà. Alors après, évidemment, chacun développe ses arguments.
Alors, je voudrais vous entendre sur la protection des troupeaux, parce que je dirais que chez Férus, j'imagine, comme dans d'autres associations, on dit qu'il est possible de faire garder les troupeaux avec les fameux chiens de garde qu'on appelle les patous. C'est des très gros molosses comme ça. Et puis, il y a les border collies aussi qui encadrent, mais eux qui ne protègent pas. On est d'accord, vous dites que c'est possible.
Alors, je voudrais juste revenir sur les propos de monsieur Morin. Parlant des massacres que peuvent faire les loups sur les troupeaux, en général, le loup, il tue net et clair sa proie, il l'attrape au cou. J'ai un ami vétérinaire qui fait régulièrement des constats. Il m'a dit, tu sais Bertrand, il venait de faire ses premiers constats de loup et il a l'habitude de faire des constats d'attaques de chiens sur les troupeaux. Et ben il dit, écoute, au moins avec le loup c'est clair. Voilà.
Pourquoi il mange pas tout ce qu'il tue?
Alors attendez, je termine, je vais vous répondre. Donc ça c'est important et il faut que...
Tu net et clair.
Alors quand on me dit que des bêtes ont été dévorées par l'arrière, ça sent plutôt le chien. On peut se tromper, mais on n'est jamais sûr que c'est vraiment du loup. Il faut vérifier, voilà, parce que depuis qu'il y a du loup en France, il n'y a plus d'attaque de chiens sur les troupeaux. Il n'y en a plus.
Ah d'accord.
Des chiens, ce qu'on appelle divagants. Voilà. Donc il y a quand même une question. Alors je veux bien que les chiens, les loups fassent du nettoyage dans la nature, parce que c'est vrai qu'ils peuvent attraper des chiens domestiques qui traînent. Mais voilà. Donc ça il faut déjà reconnaître ça.
Beaucoup d'attaques de loups qui sont dénombrées sont d'après vous.
Je dis pas tout, mais je dis qu'il faut bien vérifier.
Vous pensez qu'il y a aussi des attaques de chiens.
Bien sûr. Alors l'autre sujet que je voulais dire aussi, c'est à propos.
Et puis il faut répondre à Jean-Marie aussi.
Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de dégâts à cause des dérochements en montagne. Parfois des moutons sont sur des alpages très pentus. Quand un loup arrive, les moutons, c'est la panique. Et surtout s'il n'y a pas de chien, encore moins de bergers, c'est la panique. Les moutons partent dans tous les sens, ils roulent. Et à ce moment-là, c'est le carnage. C'est comme ça que les chiffres ont augmenté. On a 12 000 ou 13 000 bêtes prédatées. Beaucoup de grosses tueries, j'ai envie de dire, sont dues à des dérochements. Voilà. En plaine, ça se passe très différemment. Je reviens sur l'ours. Alors, sur l'ours, effectivement, il y a eu une mort dans le Trentin, sur un jogger.
En Italie.
En Italie, mais en fait, on ne connaît pas vraiment les circonstances. Ah. Voilà, faut le savoir. Moi, je dis pas que l'ours n'est pas dangereux. Dans les pays où il y a des ours, il faut faire attention. Mais dans les Abruzzes, il y a pratiquement pas d'accident. Alors dans les pays de l'Est, c'est peut-être un peu différent en Roumanie, mais faut voir aussi les Roumains, les risques qu'ils prennent avec les ours. Voilà. Donc juste pour vous dire qu'un animal, même un animal domestique, ça peut être dangereux. Il faut vous méfier de votre chat, de votre chien. Il y a 200 000 morsures de chiens par an en France. 60 000 personnes envoyées à l'hôpital chaque année, et chaque année il y a des grands-mères et des enfants qui sont tués par les chiens.
On connaît l'histoire du facteur qui se fait mordre par le chien. Alors, je voudrais, il y a quand même
sans
une question.
Sans compter les vaches qui sont blessées.
J'aimerais juste qu'on vienne. Pourquoi il ne mange pas tout ce qu'il tue? Vraie question.
Alors, en général, il mange tout ce qu'il tue. En général, ils mangent tout ce qu'ils tuent, parce que les loups, souvent, quand ils attaquent, ils n'ont pas mangé pendant une semaine ou deux. Ils sont capables de
C'est pas ce qu'a vécu. C'est pas ce qu'il a vécu, monsieur Morin.
Alors après, il peut y avoir des affaires d'overkilling, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de chien pour tenir les loups, il y a des phénomènes. D'accord. Les moutons partent dans tous les sens, et les loups, ça les rend un peu fous, et ils ont tendance à mordre un ou deux bêtes ou trois bêtes.
Voilà. Alors il y a quelque chose qui est intéressant dans votre livre, Olivier Morin, c'est que vous dites vouloir revenir à avant, ce qui est le credo des pro-loups en tout cas. C'est le fruit, vous dites, d'une certaine méconnaissance de la nature, car vous dites, savent-ils vraiment ce qu'était avant?
Ben c'est la difficulté, c'est que nous on y vit vraiment sur ces montagnes, et si on devait revenir comme avant, ben d'abord déjà je rappelle qu'avant le loup il n'était pas protégé. Parce que l'homme a toujours su que c'était son plus grand ennemi, donc il l'a toujours chassé. C'est ça la raison aussi historique. C'est pas parce que les gens étaient des fous furieux, etc. C'était pour se protéger. Protéger leur troupeau et protéger leur vie. J'évoque dans le livre les derniers méfaits de la bête des Cévennes, chez moi, sur mon secteur des Cévennes, à la fin du 19e. Alors, je sais, on va nous raconter que ce sont des histoires. Non, en fait, ça suffit. Il faut être quand même un peu sérieux, un peu crédible. Parce que sinon, on va vers de grosses difficultés dans les mois et les années qui arrivent. Donc, et puis, quand même, sur les moyens. Alors, vous parliez de la protection. Bien entendu que les éleveurs ont fait des efforts colossaux pour essayer de protéger leurs troupeaux. On va pas y revenir, mais entre les bergers, les patous, etc. Aujourd'hui, 92% de ces attaques ont lieu sur ces troupeaux protégés. Donc, il faut quand même en conclure que c'est pas suffisant. Et ça ne fonctionne pas. Deuxième chose, c'est que, pourquoi nous, sur notre exploitation, par exemple, pour être concret, parler un peu du terrain, parce que je crois que c'est quand même nécessaire. Il faut vraiment revenir à la réalité. Pourquoi on n'a pas mis les moyens de protection type patou ou berger d'Anatolie, encore pire, ce qui se développe dans les Alpes, qui sont des chiens extrêmement dangereux, qui chassent les loups. Pourquoi ? Moi, sur mon exploitation, oui, je suis parti avant-hier. J'ai 5 lots de brebis. Là, c'est mon père et mon frère qui font le travail à ma place. Je les remercie. 5 lots de brebis parce que on a en effet des brebis qui sont pleines, des brebis qui sont en lutte, c'est-à-dire qui reprennent le bélier, des brebis qui sont allaitantes, qui font téter leurs agneaux. Donc, des lots différents. 4 lots. Il me faudrait, allez, un berger par lot. Alors, 5. Il me faudrait 3, 4, 5 patous par lot. Allez, ça fait 20.
Et ouais, donc pour tenir un troupeau, il faut une quinzaine de chiens et 3 ou 4 brebis.
Faut être raisonnable. D'accord. Et en plus, on veut conserver une certaine paix et tranquillité. Depuis le retour du loup, les éleveurs, ils sont toujours entre le marteau et l'enclume. On nous dit qu'on n'est pas bon pour protéger nos troupeaux. Quand nos chiens de protection agressent malheureusement des touristes, et nous, des touristes, il nous en faut. On en veut. On a besoin du tourisme sur nos montagnes. On ne veut pas rester isolés comme ça, bunkériser nos exploitations.
Vous voulez leur vendre votre fromage de chèvre.
Vendre l'agneau de Lozère ou le fromage de chèvre. Mais on ne veut pas d'attaque sur le touriste avec nos chiens de protection. C'est pour ça qu'on n'en met pas. Et ensuite, en plus, c'est l'éleveur qui est responsable juridiquement. D'accord. Donc, pour faire court, grosso modo, depuis le retour du loup sur nos montagnes, on n'a plus cette paix, cette discussion apaisée avec les gens qui viennent nous voir.
Et ben c'est ça que je voulais vous entendre dire, c'est que finalement, vous ne croyez pas à la capacité d'une coexistence pacifique entre une agriculture et un élevage, on va dire, respectueux de l'environnement et la réintroduction d'espèces sauvages. Vous, j'imagine que si, vous y croyez.
Alors, tout simplement, parce que monsieur parle de la réalité du terrain, mais la réalité du terrain aussi, c'est que vous avez 80% des loups qui sont aujourd'hui dans les Alpes. Alors je dis pas que ça se passe toujours très bien, mais il y a beaucoup d'éleveurs qui se défendent très bien. Voilà. Ouais. Après, il peut y avoir, il y a jamais zéro défaut. Hein, quand vous mettez des systèmes de sécurité en place, il y a toujours des failles. Voilà. Donc. En tout cas, l'État investit beaucoup. Et quand vous parlez de chasser loup, on tue 200 loups par an en France. On va en tuer cette année 210. Donc, on n'aura pas le temps de parler de ça. Mais l'État français a demandé a déclassé le loup de passer d'espèce strictement protégée à protégée. Mais je veux dire, en France déjà, on va tuer 210 loups cette année. Donc les loups, on en tue malheureusement beaucoup. Et d'ailleurs, nous, ce qu'on pense, c'est que plus on en tue, plus on déstabilise les meutes et plus il y a d'attaques. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Après, pour l'affaire des chiens de protection, on a perdu la culture de la protection en France. La culture de la protection en France, ça veut dire quoi? Ça veut dire des bergers qui savent travailler avec leurs chiens. Alors, les chiens de travail, ça, je sais que ça n'a jamais disparu. Par contre, travailler avec les chiens de protection, c'est beaucoup plus difficile. Il faut aussi avoir des sélections de chiens de protection, ce qui n'est pas le cas. Les filières se mettent en place aujourd'hui, mais l'État est très, très lent là-dessus. Donc voilà, on va pas arriver demain matin aussi rapidement qu'on voudrait à une protection optimum.
Vous remercie tous les deux.
Par contre, il faut aller dans le bon sens.
Je rappelle le livre de Olivier Morin, Le Festin des loups, le cri d'alarme d'un maire rural aux éditions Première Partie. Je ne voulais pas qu'on se quitte sans dire un mot de la disparition du magistrat Renaud Van Ruynbeeck, le juge Renaud Van Ruynbeeck, dont on a appris la mort hier. L'affaire Elf, l'affaire Urba Graco, la mise à jour de la corruption en France, c'était lui, une pensée à sa famille. Vous pouvez retrouver nos enquêtes sur le site factuel.media. Vous pouvez retrouver notre émission sur la chaîne YouTube de Sud Radio. La semaine prochaine, on se retrouve samedi 10h pour une nouvelle heure libre. Et tout de suite, on parle auto avec Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault.
Avec notamment une question. Tiens, faut-il instaurer un contrôle technique comme sur nos véhicules, mais sur l'état des routes? Vous avez entendu parler de cette autoroute qui a été fermée à cause d'une grosse faille. Faut-il contrôler nos routes? On va en parler dans quelques instants, juste après les infos.
Allez, à tout de suite sur Sud Radio.
Cerise de Groupama nous dit pourquoi ça change tout d'être bien accompagné.
Tout est prêt pour votre déménagement, Linda?
Non, Cerise, j'ai oublié l'assurance habitation. Avec mon budget, je peux pas payer cher et j'ai peur de pas être bien couverte.
Chez Groupama, vous pouvez économiser en moyenne 149 euros sur votre contrat habitation et profiter des mêmes garanties.
Vous savez me parler, Cerise.
Nos conseillers aussi, et ils sont disponibles en agence à moins de 15 minutes de chez vous.
Groupama, la vraie vie s'assure ici.
Économie moyenne déclarée à garantie équivalente par des clients ayant souscrit en 2022. Étude Ipsos 2023. Plus d'infos sur groupama.fr.
Sud Radio Périgueux
104.9
Sud Radio.
You said you hated the ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts. But not everything works out. No, now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. Damn, it's all changing so fast. I see a love.
Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Jean-Marie Bordry.
Bienvenue à vous, bonjour à tous, bienvenue dans le grand matin week-end sur Sud Radio. Allez, c'est parti, jusqu'à 10h, on est le dimanche 12 mai. On vous souhaite une très bonne fin de long week-end du mois de mai. En tout cas, il fait encore beau, même si ça va se couvrir dans la journée. Rémi André vous expliquera tout ça, profitez-en en tout cas. Toujours le même conseil pour une fin de week-end, soyez prudents sur la route du retour des vacances. Bison futé voit un trafic particulièrement chargé, un petit peu partout sur le pays. Raison de plus pour respecter les distances, vous arrêtez au moins toutes les 2 heures sur l'autoroute. Et pourquoi pas changer de conducteur ou de conductrice, c'est la meilleure façon de rester vigilant. Allez, on est ensemble jusqu'à 10h. On va parler, tiens, rugby, on va parler aussi musique. Après cette longue nuit de l'Eurovision, on aura entendu beaucoup de choses, mais pas souvent sur de la musique. La France n'a toujours pas gagné, hein, toujours pas depuis 1977. Malgré tout, Slimane s'en est bien sorti. Il a fini 4e. On vous fera réécouter sa chanson. C'est la Suisse qui a gagné avec un titre électro. On en parlera aussi. Israël fait bonne figure, malgré le fait que des milliers de manifestants étaient venus pour empêcher la jeune chanteuse de chanter. On en parlera également avec moi, toute l'équipe, tout l'orchestre du Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Julien Delmas à la réalisation. Salut Julien.
Bonjour Jean-Marie, bonjour tout le monde.
Jordan Rakotozafi au standard. Bonjour Jordan.
Bonjour à tous.
Au 0826 300 300. On est également sur sudradio.fr avec Théo Ampillac. Bonjour à vous Théo.
Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous.
Ça a donné quoi les Clermontois?
Clermont a gagné hier soir.
On parle de foot ou de rugby? Non,
rugby. De rugby.
Ah voilà, mais belle victoire clermontoise effectivement hier. Morgan Thomas qui nous détaillera tout ça. Bonjour à vous Morgane.
Il n'y avait pas de foot hier. Bonjour Jean-Marie, non, bonjour à tous, en tout
exactement.
Cas en France.
Exactement, mais écoutez, c'est pas grave. En tout cas, on en parlera du sport avec vous dans le journal des sports. On fera la revue de presse aussi avec cette idée saugrenue, tiens. Un duel, ou plutôt un nouveau débat, un troisième débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Est-ce que ça pourrait faire basculer la campagne des européennes? Emmanuel Macron, lui, il y pense. On en reparlera.
L'horoscope Sud Radio.
Et elle pense aux astres. C'est Bénédicte, bonjour à vous.
Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 12 mai. Bélier, aujourd'hui vous décidez de voir la vie en rose et vous avez raison. Profitez de ces sentiments amoureux sans penser au lendemain. Taureau, votre besoin d'évasion peut vous faire oublier des choses importantes. Ne vous dispersez pas aux quatre vents. Gémeaux, aujourd'hui, jovialité et amusement sont au programme de la journée. C'est le moment de profiter pleinement de la vie. Cancer, réconciliation et bonne entente sont au rendez-vous. Vous vous montrez plus détendu et plus disponible pour vos proches. Lion, les planètes vous chahutent. Heureusement, une grande créativité vous anime et vous êtes déterminé à réaliser vos projets les plus fous. Vierge, ne craignez pas de mettre la vitesse supérieure. Vous foncez sans vous poser de questions inutiles pour mener vos tâches jusqu'au bout. Balance, vous aurez les idées claires et des facilités pour en parler. L'équilibre est de retour dans votre vie relationnelle. Scorpion, vous tendez à être excessif.